Et bonsoir.
Bonsoir. Il est donc 19h, passé de 2 minutes. Et ce soir, de quoi qu'on va parler ?
Et ce soir, on va parler rapidement de l'État de Mississippi qui vote une loi qui restreint énormément l'accès à l'intervention volontaire de grossesse.
Ensuite, on parlera valse des préfets, maintien de l'ordre, tout ça, un peu pour être dans l'actu, quoi.
Et puis aussi en actu lyonnaise, on fera aussi un petit peu rapidement, mais quand même, il faut noter que les locaux de Génération Identitaire dans le Vieux Lyon ont été fermés par la municipalité.
Ensuite, on aura bien sûr un point, faut que ça se sache, hein, parce que ça continue ou ça continue pas, vous verrez.
Et puis on terminera, est-ce qu'on terminera à ce moment-là par...
Ouais, c'est ça, moi j'ai plus rien après. Hein.
Ok, et on terminera par... pas vraiment un compte-rendu de la manifestation des sourds ce matin à Paris, vu qu'on n'a aucune nouvelle depuis qu'elle s'est passée, mais un petit exposé sur pourquoi est-ce que les sourds trouvaient utile de manifester, les sourds et les sourdes.
Et attendez, parce qu'en plus on a des nouveaux trucs sur lesquels... Ah, attendez, je vous pas. Pas du tout. Pas du tout. Ah, on a des nouveaux trucs dans la technique, c'est bon.
Qu'à cela ne tienne, voilà. Je vais attaquer tout de suite sur... Alors, monde de merde avec un pays de merde parmi d'autres pays de merde, hein, mais en tout cas, et un état de merde dans un pays de merde, dans un monde de merde, l'état du Mississippi. Le Mississippi qui a adopté hier la loi sur l'avortement la plus contraignante jusqu'à maintenant de tous les États-Unis, et autant dire que les États-Unis se posent déjà un peu là. Alors en résumé, c'est l'interdiction de l'IVG à partir du moment où on peut détecter un battement cardiaque chez l'embryon, c'est-à-dire aux alentours de 6 semaines de grossesse. 6 semaines, on comprend bien, ça fait un mois et demi, 2 mois après les dernières règles. D'après l'avocate américaine Elizabeth Smith du Centre pour les droits reproductifs, la majorité des femmes américaines n'ont pas encore compris à la 6e semaine qu'elles sont enceintes. Et donc c'est à partir de ce moment qu'elles ne peuvent plus avorter.
Et puis j'imagine qu'il y a un peu un espèce d'enjeu symbolique de choisir l'histoire du battement de cœur comme ça.
Bien sûr, là, bien sûr, c'est ça. Il y a une vie à ce moment-là, l'embryon n'est plus un embryon, c'est un bébé. Bon, je ne me rappelle plus quelle taille il fait à ce moment-là, mais en réalité c'est un bébé qui est à peine visible à l'œil nu. Hein. Mais voilà. Alors, à titre de comparaison, en France, c'est jusqu'à 14 semaines qu'on peut avorter, donc plus du double de temps. Et en plus, il y a certains cas où ça peut être bien plus longtemps que ça. Là, c'est cette loi qui a été votée hier dans le Mississippi. Prévoit une exception en cas de complications médicales, mais absolument rien pour les victimes de viol ou les victimes d'inceste. Déjà aujourd'hui, dans cet état, aujourd'hui où la loi n'est pas encore en vigueur, hein, parce que pour l'instant il manque encore une sorte de décret d'application qui n'est pas encore publié, mais bon, qui devrait l'être très rapidement. Dans tout Mississippi, il y a un seul hôpital qui pratique les avortements. La multiplication des démarches administratives fait qu'il est à peu près impossible d'avoir, d'y avoir recours de toute façon dans un délai de 6 semaines, de 6 semaines de grossesse, quoi. C'est-à-dire que non seulement il n'y a qu'un hôpital, mais en plus, le nombre de trucs administratifs à faire avant est extrêmement long. Alors voilà, dans un pays où un bon nombre de gens qui vont encore, de ceux des gens qui vont encore voter aux États-Unis, le font par obsession pour un sujet, généralement, soit pour les armes, soit contre l'avortement. Mais du coup, c'est un pays où les politiciens faf se multiplient. On peut encore bizarrement placer un peu d'espoir, non pas tant dans les hommes politiques que dans les juges. Et alors en fait, deux États ont déjà adopté des lois dans le même genre que celle du Mississippi, c'est l'Iowa et le Kentucky. Et dans ces deux cas, c'est des juges qui ont bloqué les lois après leur adoption. Alors là, ça reste encore une possibilité pour le Kentucky. Reste que, de toute façon, c'est une offensive générale. D'autres lois du même topo sont en préparation, au moins dans le Tennessee et en Géorgie. Bon, ben voilà. Et ben moi, quand même, je voudrais dire que j'attends de pied ferme le prochain qui va me dire que les musulmans sont sexistes.
Canu Info. Du mercredi.
Ah, et ben on va parler. Ce que je disais que c'était à toi de parler, t'as fait une tête comme si c'était à moi. Alors attends, je retrouve mes papiers. Hop là. Ah, parce que quand même, on peut rejeter la faute. C'est-à-dire que l'émission avant nous, hein, nous avait dit qu'ils allaient finir en retard et ils sont venus vers nous une seconde après que ce soit, avant que ce soit à nous de commencer. On dit ah non, finalement, qu'on finit à l'heure. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'on est un peu à la bourre. Alors c'est pas pour rejeter la faute sur les autres, mais voilà. Hein, d'abord. Alors, il n'y a pas que chez nous que c'est le bordel, vous l'aurez remarqué, en France un peu aussi. Et bon, bah, en ce moment, hein, vaut quand même mieux être animateur ou animatrice à Radio Canu que préfet à Paris. Mais alors, bon, on va d'abord vous parler de David Clavière. Alors, bon, bah, vous savez certainement pas qui c'est à Lyon. Pourtant, eh bien, c'était le furtif préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet du Rhône. Eh bien, il a été nommé directeur du nouveau préfet de police de Paris, tout juste nommé suite au limogeage de son prédécesseur Michel Delpech, qui était venu aussi passer du bon temps à Lyon, on s'en souvient. Bon, bah, comme David hein, a été nommé en novembre 2018 à Lyon, bon, on n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance avec lui. Mais par déduction, s'il a été nommé après le succès des Champs-Élysées, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il soit
disons un peu ferme.
Ouais, c'est un peu connu en tout cas en interne pour être un homme de poigne et qui saura donner des consignes de grande fermeté à ses sbires des forces de l'ordre, tout en leur cherchant pas trop de poux dans la tête en cas de violence de leur part. Voilà, donc on n'a pas eu le temps de le voir à l'œuvre à Lyon. On imagine que voilà, à Paris, ça va être ça. Car la nouvelle équipe, hein, constituée, équipe de choc, on pourrait dire, constituée par Castaner, qui s'est senti un petit peu sur un siège électable après samedi. Voilà, alors après, cette équipe de choc constituée à la préfecture de police de Paris aura pour mission d'appliquer une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre. Nouvelle doctrine qui, si on en croit les dernières déclarations et confidences anonymes de proches de Macron, je cite, il, en parlant de Castaner, va falloir assumer, même si un black bloc qui met le feu aux fouquettes s'en prend une et finit tétraplégique. Donc voilà, donc ça après le discours de Castaner sur son discours de fermeté en disant ah, voilà, on va être encore plus ferme qu'avant. Voilà, il va falloir parier qu'on arrive à tes drames, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite largement sous-entendre. Castaner qui déclarait, en plus de tout ça, au micro de France Inter cette semaine, qu'on ne pouvait pas parler de violence policière, qu'il n'en avait jamais vu et qu'on ne pouvait pas dire que les flics étaient violents, que dès qu'il y avait peut-être dérapage, la justice s'en saisissait, et que voilà... Tout était en ordre et qu'il apportait bien sûr tout son soutien aux forces de l'ordre. Bon, on passera sur les chiffres des blessés, des gens qui ont des mutilés et tout. Bon, pour ce qui est de la nouvelle doctrine, Castaner souhaite entre autres des unités plus mobiles, plus autonomes et qu'elles aillent davantage au contact pour interpeller. Alors, c'était un peu des doctrines qui s'étaient un peu affrontées. En gros, ce qu'il dit là, c'est ce qui se fait globalement en France de manière assez régulière. Et voilà, en toute logique, hein, donc c'est cette nouvelle doctrine sera appliquée par les unités qui sont le plus mobiles. C'est donc la BAC, voire la BRI pour Brigade de Recherche et d'Intervention, qui n'est d'autre que l'ancienne anti-gang et qu'on a vu sur les manifs des samedis à Paris arriver en renfort pour faire plus de nombre. Voilà, donc c'est des gens qui sont pas du tout formés pour le maintien de l'ordre, qui sont plutôt à faire sur des histoires de, je sais pas, d'intervention sur des trafics de drogue, d'armes, tout ça, voilà. Donc voilà, donc tous ces joyeux personnages, nous les voyons donc dans les manifestations. Voilà, donc voilà, c'est donc des unités qui sont quand même plutôt connues pour jouer les cow-boys que pour savoir contenir une foule et garder leur calme. Bon, on connaît pas beaucoup d'unités de police qui sont capables de faire ça, mais il y en a d'autres qui sont quand même vraiment connues pour aller se la jouer auprès des manifestants. La BAC en prime, hein, quand même. Autre grande idée du gouvernement pour faire face aux manifestants, et là c'est Benjamin Griveaux qui est d'autre que, si je me trompe pas, le porte-parole, je crois, du gouvernement.
Oui.
Ah, c'est-à-dire que cette équipe, on a un peu du mal quand même à la connaître. alors c'est lui qui fait l'annonce, et alors qui justifie pour concentrer toutes les forces de police nécessaires au rétablissement de l'ordre. L'opération Sentinelle sera mobilisée samedi prochain pour protéger les bâtiments officiels et les points fixes. Alors l'opération Sentinelle, ce n'est rien d'autre que l'armée. Hein, voilà. Alors,
et l'armée avec des flingues un peu quand même impressionnantes.
Ouais, hein. Ouais, avec des fusils d'assaut, ouais, c'est ça. Alors au-delà du symbole, hein, qui est que la dernière fois que l'armée a été mobilisée en tant que maintien de l'ordre, hein, c'était durant la guerre d'Algérie. Voilà. On se demande bien comment va se comporter l'opération Sentinelle si la porte, par exemple, d'un ministère est détruite, pas avec un transpalette, comme cela s'est déjà vu, hein, un samedi. Quel ordre aura l'armée pour intervenir? Quel sera son champ d'intervention? Quand on voit l'âge des mômes sous leur uniforme avec leur fusil d'assaut, on se demande bien à quel moment ils ont été formés ou quand est-ce qu'ils ont eu le temps d'être formés pour garder leur sang-froid face à une foule hostile. Parce qu'on imagine quand même assez difficilement, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos un peu de samedi dernier, où il y avait des gardes mobiles là, qui étaient autour de l'Arc de Triomphe pour sanctuariser cet endroit, machin, pour pas que ça redevienne un espèce de symbole. C'est-à-dire que c'était un peu devenu des espèces de cibles vivantes, quoi, où ils se prenaient des pavés à longueur de temps, des fois avec des équipes qui venaient un peu disperser la foule et tout, mais voilà, du coup ils étaient là, ils absorbaient, ils tabassaient quand ils pouvaient tabasser, ils envoyaient des grenades quand ils pouvaient... Sauf que quand on imaginait si c'était l'opération Sentinelle qui était là, voilà, c'est pas quand même pas des gens qui ont été habitués à faire face à une foule, quoi.
Et des gens qui auraient dans les mains non pas des flashballs, mais des fusils mitrailleurs.
C'est ça. Donc voilà, on ne sait pas, hein. On imagine que l'ordre ne va pas être de tirer à bout portant sur la foule, mais voilà, c'est quand même arrivé une situation à risque, que le gouvernement a l'air de plus en plus prêt à prendre, c'est-à-dire que là, il commence à justifier un peu, à poser un peu les... pour dire, bon, en fait, là, s'il y a un accident, franchement, c'est que c'est les manifestants qui ont déconné. Grosso modo, c'est un peu ce qu'on entend en ce moment. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que l'exécutif, Castaner en tête, monte les muscles et tente de siffler la fin de la récré. Hein, c'est un peu son but depuis le début du mouvement. Ce n'est pas la première fois, hein, et ce n'est pas la première fois, en tout cas, que le mouvement nous aura surpris par sa ténacité et aura réussi à déjouer les pronostics de la décrue de la mobilisation.
Canu Info.
Et l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, Jean-Yves Sécheresse, a pris vendredi dernier deux arrêtés visant à interdire l'accès au public de deux locaux gérés par Génération Identitaire, donc le groupe d'extrême droite, deux locaux qui sont montés du change dans le Vieux Lyon. Alors d'une part, La Traboule, un bar associatif qui n'est ouvert depuis 2011, et d'autre part, Top Sport Rhône, qu'on appelle aussi La Gaugée, une salle de musculation qui est juste à côté du bar. Et donc voilà, c'est ces deux locaux qui ont plus le droit de recevoir du public, d'après la municipalité. Pour fermer ces locaux, la mairie de Lyon s'est appuyée sur un rapport de la commission communale de la sécurité, qui a rendu l'été dernier un avis défavorable à l'accueil du public. La commission a considéré que, ouvrez les guillemets, l'état des locaux compromettait gravement la sécurité du public et faisait obstacle au maintien de l'exploitation des établissements. Des travaux, pour le coup, liés à la sécurité ont été demandés. Après, il y a eu deux mises en demeure qui ont été adressées à Génération Identitaire. Génération Identitaire n'a pas répondu et la municipalité a pris ses arrêtés vendredi dernier. Et donc vendredi dernier, c'est-à-dire au lendemain de l'attentat de Christchurch. Alors est-ce que ça peut avoir décidé la mairie? Bon, on ne sait pas. Les locaux, en tout cas, ne sont pas, en théorie en tout cas, ne sont pas fermés définitivement, mais le temps que des travaux soient réalisés. Alors voilà, que dire de cette fermeture? Bon, on ne va pas beaucoup épiloguer, mais on va quand même noter d'un côté le fait que, bien sûr, on se réjouit du fait que Génération Identitaire soit privée dans une certaine mesure, hein, pas non plus complètement, mais dans une certaine mesure privée d'une base qui sert à sa capacité de nuisance. Ça, c'est toujours ça de prix. Mais malgré tout, on n'est pas entièrement certain d'être tout à fait content que la municipalité de Lyon se sente le pouvoir de fermer des locaux associatifs politiques pour des raisons visiblement politiques, parce que cette histoire de sécurité du public, c'est quand même vraiment un prétexte. Et en tout cas, voilà, ce coup-ci, c'est les femmes, c'est les FAF qui ont été visées. Mais la semaine prochaine, peut-être, ou peut-être dans 6 mois, ou on ne sait pas bien quand, qui nous dit que ça ne sera pas un local à nous? Alors nous, c'est un nous très large, hein, mais en tout cas, un local anarchiste, un local d'extrême gauche, un local autonome, un local que sais-je, qui se retrouverait fermé administrativement. avec le même genre de prétexte en carton. Voilà, l'ambiguïté de la situation vient du fait que c'est quand même toujours problématique, ça serait toujours problématique de notre part de soutenir la répression de gens qui sont plus forts que nous, même si cette répression s'abat sur des FAF, c'est-à-dire des ennemis politiques purs, simples et radicaux.
Yeah.
Et on vient d'entendre la chanson de Fermin Muguruza, la chanson Névrose, puisque c'est aujourd'hui le 20 mars, le jour de Névrose, qui est le traditionnel nouvel an kurde. Et bah voilà, il faut juste un petit peu comprendre que depuis que l'identité kurde est globalement un problème politique, et bah la fête de Névrose est elle aussi une fête politique pour les Kurdes, une fête d'affirmation un peu de, c'est ça, de qui ils sont, quoi.
Et donc aujourd'hui, c'est pas trop tard, et à 19h30, si vous nous écoutez encore, on vous en voudra pas si vous éteignez votre poste de radio pour foncer place Mazagran, puisque la marche au flambeau qui devait initialement partir de Bellecour pour rejoindre la place Mazagran a eu un changement de dernière minute. Bref, il se trouve qu'il y a un rassemblement, en tout cas place Mazagran, pour la fête de Névrose. Et cette année, comme malheureusement souvent chaque année, cette fête est souvent ternie par l'actualité. Et en tout cas là, il s'agit aussi de soutenir les centaines de prisonniers politiques qui se trouvent emprisonnés en Turquie, pardon. Et en tout cas, il y a une grève de la faim des Kurdes qui a été entamée. Pour certaines personnes, cette grève de la faim dure depuis plus de 120 jours. Donc ça commence à être chaud pour leur santé. Parmi elles, la députée Leyla Güven, pardon, qui était emprisonnée et libérée, mais elle continue sa grève de la faim afin de continuer à soutenir les autres. Elle était membre, il me semble, du parti. Ah, j'ai plus le nom, mince. Le parti de gauche et d'extrême gauche turc, quoi. Voilà un peu ce qui se passe en ce moment en Turquie, c'est-à-dire que si vous êtes kurde et opposant aux politiques de manière assez large, vous risquez la prison de manière complètement arbitraire. Voilà, cette marche est là pour Névrose et aussi pour apporter notre soutien aux grévistes de la faim. Ah, et ben pas de générique de Faut que ça se sache, mais c'est pourtant bien la rubrique sur laquelle on arrive. Bref, plus de 17 000 personnes sont mortes en Méditerranée au cours des 4 dernières années. Pour enrayer cette tragédie, les pays de l'Union européenne n'ont rien trouvé de mieux durant tout ce temps de saper toute opération de secours des bateaux des ONG, soit de manière ultra active comme l'Italie et l'Espagne, soit en regardant de l'autre côté et en jouant la montre comme la France et bien d'autres. Quant à l'Union européenne en tant qu'organisation qui agit comme synthèse des volontés des pays de l'Union, son but suprême est de déléguer toujours plus la gestion des migrants à la Libye.
Alors d'autres pays, hein, parce que ça marche aussi avec le Maroc, par exemple.
Tout à fait, c'est vrai. Et voir tout un tas d'autres pays, mais là, c'est vraiment ceux dont on parle le plus en ce moment.
Oui, il y a aussi la Turquie, par exemple, qui sont massivement des pays dont on peut s'attendre à ce qu'en termes de respect des droits humains, ils ne soient pas complètement tip-top, et donc ça a arrangé énormément l'Union européenne de faire le sale boulot par un peu ces sbires, des sortes d'états un peu plus voyous côté droits humains, et comme ça qui peuvent se permettre des choses que l'Union européenne ne serait pas très fière de se permettre, mais finalement se permet quand même de plus en plus.
C'est ça, et où on peut se dire oh mais ça là c'est un peu le bordel
c'est pour normal, la Libye de l'Afrique du Nord, les Arabes sont cruels, ouais. Les Turcs sont méchants, c'est normal qu'ils maltraitent les migrants.
Voilà. Alors là, faut quand même suivre régulièrement pour savoir où on en est des bateaux qui sont en marche ou pas. Le 18 mars, donc il y a 2 jours, seul le bateau Mare Jonio navigue au large des côtes libyennes et procède à des sauvetages. Sauf que depuis mardi, eh bien, comme ils ont bien accompli leur mission, ils ont effectivement secouru 49 migrants qui étaient en difficulté sur un canot. Et le bateau a été saisi hein, suite à ça par les autorités italiennes. Je vais vous raconter un peu pourquoi. En gros, ces 49 migrants sur un canot en difficulté. Le canot se retrouve à 40 miles nautiques au nord de la Libye. Une vedette des gardes-côtes libyennes se trouvait à proximité, mais les militants présents sur le bateau ont préféré embarquer les migrants plutôt que de les voir ramenés en Libye. Militants qui étaient bien sûr bien informés du sort qui était réservé aux migrants en Libye, c'est-à-dire que les gens sont enfermés, agressés, voire violés pour certains, voire esclavagisés pour d'autres, voire tout ça en même temps. Voilà. Mardi matin, le Mare Jonio s'est positionné au large de Lampedusa pour s'abriter du mauvais temps, alors que les autorités lui avaient ordonné de rester à distance. Donc les autorités italiennes. Donc là, vous avez un bateau avec 49 personnes qui ont été secourues, donc dans un état de détresse. Qui se retrouvent comme malheureusement habituellement en ce moment on leur refuse d'accoster, sauf que là en plus ils se retrouvent pris dans le mauvais temps. C'est pas forcément des bateaux qui sont faits pour rester hyper longtemps autonomes et affronter des gros temps. Donc voilà, donc là ils décident de se mettre à l'abri pour sauver leur peau quoi. Et voilà, donc de passer outre un avis défavorable des autorités italiennes. Voilà, donc durant ce temps, il y a quand même un jeune homme de 25 ans souffrant de pneumonie qui a pu être évacué au centre médical de Lille. Et voilà, mais bon, entre-temps, le bateau a accosté sur le port de Lampedusa. Tout le monde a pu accoster et le bateau, par contre, a été saisi par les autorités italiennes, ce qui fait que pour l'instant, plus aucun navire n'assure le sauvetage des personnes en Méditerranée, mis à part les gardes-côtes libyens. En gros, si on fait le point, il y a plusieurs bateaux qui sont bloqués dans les ports européens. Il y a le Sea-Watch 3, qui est le bateau de l'ONG Sea-Watch, qui est en escale dans le port de Marseille, mais pour un problème administratif hein, relatif à son pavillon néerlandais, il devrait peut-être repartir prochainement. Voilà, on voit que les autorités deviennent très 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 tritillonnes sur ces bateaux d'ONG. Pas sûr qu'elles le soient autant hein, sur les gros cargos qui transportent plein de matériel et tout. Depuis un débarquement en juin 2018 à Malte, le Lifeline de l'ONG allemande du même nom est bloqué au port de La Valette où, pareil, et ben les autorités maltaises contestent sa situation administrative. Depuis janvier 2019, l'Open Arms de l'ONG Proactiva Open Arms est bloqué à Barcelone par les autorités espagnoles. Au printemps 2018, ce navire a été placé sous séquestre en Italie avant d'être autorisé à repartir. Depuis août 2017, la justice italienne a saisi le Juventa de l'ONG allemande
Jugendrettet.
Merci. Accusé de complicité avec les passeurs libyens, mais qui clame depuis son innocence. Ah, on veut bien les croire. Allez. Bon voilà, il y a d'autres ONG qui résistent, qui devraient repartir récemment. C'est le Highland Kurdi et dans les airs, il y a quand même encore des avions qui mènent des allers-retours afin de repérer des embarcations en détresse. C'est le cas de Colibri et de Moonbird et le voilier de l'Astral, voilier de l'ONG Open Arms, est actuellement. Bon, il s'agit d'un voilier, hein, donc c'est-à-dire que c'est je veux dire, c'est cool s'ils continuent, hein, parce qu'il n'y a plus personne. Mais je pense qu'ils sont régulièrement en difficulté. Voilà, en tout cas, ils ne peuvent pas tout faire face à un gros bateau à moteur. Voilà. Sinon, du côté de Paris, on est toujours quand même un peu à la pointe de la collaboration en France. Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins Sans Frontières et de nombreuses ONG internationales ont dénoncé la livraison prochaine de 6 bateaux de la marine à la marine libyenne, pardon. Oui, c'est ça. Les bateaux, bon, ils se cachent pas, hein, ils se disent pas, ah, c'est des échanges commerciaux. Non, c'est des bateaux pour lutter contre l'immigration clandestine. La France souhaite renforcer son partenariat avec la Libye. Il s'agit de 6 bateaux semi-rigides équipés de radars et de GPS afin de pouvoir donner les moyens logistiques à la Libye de ramener les migrants, dans cet enfer, hein, comme disent les ONG. Il y a eu plusieurs vidéos et photos qui sortent un peu des conditions de détention des migrants en Libye. Notamment en ce moment, si vous allez jeter un coup d'œil sur le site infomigrant.net, à tes souhaits, vous pourrez voir des gens entassés dans des par terre, hein, parce qu'on va pas dire que l'espèce de truc tout fin leur sert de matelas, des gens qui sont en comment on dit quand on est en train de mourir de faim,
oui, ils sont en train de mourir de faim,
souffrent de malnutrition sévère, parce qu'en tout cas on voit des photos qui sortent de ce centre avec des gens les joues creusées, les bras la pose sur les os. Voilà, c'est terrible, et la France vient de leur lâcher 6 bateaux, et c'est pas des bateaux pour les ramener dans des meilleures conditions, c'est juste pour en ramener plus.
Et on pourra donc encore une fois noter que si les gouvernements typiquement français d'un côté et italiens de l'autre s'opposent énormément sur des histoires d'images qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, de quel type d'Europe ils veulent, en fait il s'agit uniquement d'histoires d'images, parce que dans la réalité de leur politique avec les gens qui meurent en Méditerranée, les différences entre la France et l'Italie sont, ma foi, extrêmement difficiles à discerner. Et une dizaine d'associations de sourds et de sourdes appelées à manifester ce matin à Paris. Leur revendication principale peut sembler anecdotique, purement symbolique, on pourrait dire, puisque c'est l'inscription de la langue des signes française, la LSF, dans la Constitution, comme les langues régionales. Alors, ça peut sembler purement symbolique, mais en réalité, derrière cette revendication, il y a la réalité de la vie des sourdes et des sourds, et toute l'histoire de leur accès accès aux services publics et à l'éducation. Alors, ma foi, tout ça m'a donné envie de vous raconter un petit peu l'histoire de cette magnifique langue qu'est la langue des signes française, qui est vraiment... les gens qui auraient aucune idée de cette langue... Alors, bon, d'une part, je parle bien de la langue des signes et non pas du langage des signes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une vraie langue et qui est une langue qui est largement aussi riche que les langues orales, qui est une langue qui est incroyable par rapport à toutes les autres langues qu'on connaît, puisque c'est une langue qui arrive à faire coexister des mots dans l'espace. Et c'est-à-dire que les mots coexistent dans le temps. Enfin, c'est une langue qui fonctionne de manière vraiment très différente des langues orales et qui est complètement fascinante. Cette langue des signes a été inventée et développée. D'abord, elle date pas du tout de toute éternité, hein. En fait, c'est une langue qui date réellement de la fin du XVIIIe siècle. Elle a été inventée et développée par un curé de cette époque-là qui s'appelait l'abbé de l'Épée. Bon, c'est un gars. Allez, je raconte la petite histoire.
Vas-y.
Un jour, surpris par la pluie, il se réfugie dans une maison où les gens veulent bien l'accueillir. Et là, dans la maison, il y a deux gamines qui sont sœurs et qui sont sourdes. Et ces gamines, il remarque qu'elles sont en train de communiquer entre elles en se faisant des gestes. En fait, les deux gamines, mais comme ça arrive dans d'autres cadres, et y compris avec des enfants entendants, les deux gamines avaient développé un langage à elles. Ça arrive avec des enfants entendants qui se retrouvent à des moments dans une intimité extrêmement grande et qui développent des langues personnelles que juste personne d'autre ne comprend. Il y a des petites histoires comme ça dans la linguistique. Bon, là, en tout cas, c'était une langue par signe. Et lui, qui était rentré à cause de l'averse, il y est finalement resté, je ne me rappelle plus, mais genre une semaine ou 15 jours, à les mater, à essayer de les comprendre, etc., etc. Il ressort de là, et à partir de ce moment-là, il développe une langue basée sur les signes. Il faut bien comprendre que jusqu'à ce jour-là, les enfants sourds étaient tout simplement tenus pour des sortes de sauvages. Bon, impossible de leur apprendre quoi que ce soit, impossible de communiquer en aucune manière. C'était vraiment, ils étaient, enfin voilà, comme que à la fin, ils devenaient ce qu'on appelait à l'époque des fous, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de ce vaste mot dans lequel on mettait toutes sortes de troubles, mais finalement, la surdité amenait à ça parce qu'on n'avait juste rien à en faire. Bon, mais à la suite de cet abbé de l'épée, donc lui, il a cherché des sourds, il a développé le truc, et puis il a fini par créer une école où des enfants sourds ont pu être scolarisés, apprendre des choses, et petit à petit, il y a eu une deuxième génération de profs dans cette école qui étaient des profs sourds qui apprenaient cette langue à des enfants qui étaient amenés relativement petits. Et donc, petit à petit, les sourds et les sourdes ont pu parler pour eux et elles-mêmes. Une communauté s'est formée petit à petit. Après, pendant le 19e siècle, pendant la plus grosse partie du 19e siècle, alors je fais quand même très rapidement, mais il y a une lutte entre les partisans de la langue des signes, donc apprendre aux enfants sourds cette langue des signes qui leur permettait d'être autonomes, mais pas de parler avec, avec les gens qui n'avaient pas appris cette langue, et en face, les partisans de ce qu'on appelle toujours l'oralisation, c'est-à-dire on chope un enfant sourd et on le force à apprendre à parler avec, à parler le même langage que les enfants entendants. Alors pour ça, il y a toutes sortes de techniques, leur faire toucher la gorge pour comprendre quand est-ce que la glotte vibre ou ne vibre pas, leur montrer les trucs. Bon, c'est ultra galère. Les enfants sourds n'arrivent jamais à parler d'une manière normal, mais en réalité, la plupart du temps, c'est extrêmement rare qu'ils arrivent à parler d'une manière compréhensible pour les enfants qui sont pas habitués, pour les gens qui sont pas habitués. À la fin, c'est comme ça qu'on en fait des handicapés, c'est-à-dire que des enfants sourds avec la langue des signes sont dans une situation où ils maîtrisent leur communication, pas avec tout le monde, mais en tout cas avec les gens qui parlent la même langue qu'eux, alors que les enfants qui oralisent sont toujours en infériorité. La plupart du temps, ils n'arrivent jamais à apprendre à lire et à écrire, par exemple, etc., etc. Bon, ça, pendant le 19e siècle, ça dure, cette lutte. Et puis, en 1880, il y a un grand congrès européen des gens qui s'occupent des sourds. Alors, bon, il y a toute une histoire de ce congrès, de petites traîtrises, de petites trahisons de couloir, etc. Mais toujours est-il que le congrès finit par prendre la décision globale d'interdire l'apprentissage de la langue des signes. Et cette décision est traduite dans la loi en France. Et donc, de 1880 à 1981, aucun apprentissage de la langue des signes à l'école. Et aucune institution n'est autorisée à apprendre la langue des signes. Alors, dans la pratique, cette langue ne se perd pas parce que certains sourds résistent et transmettent le truc. Et alors, il y a cette communauté qui avait commencé à exister et qui continue à exister bon an, mal an. Il y a par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, beaucoup de clubs de sport pour les sourds, dans lesquels cette langue continue à exister. Malgré tout, ça reste une existence un peu végétative, je dirais. C'est-à-dire que comme il y a relativement peu de monde qui y a accès, eh ben, la langue est un peu figée, un peu, disons que c'est plus une langue béquille qu'une vraie langue. Mais voilà, il y a cette sorte de vie qui continue. Et puis, dans les années 70, il y a un peu de, c'est-à-dire c'est un moment où il y a toutes sortes de protestations sociales et toutes sortes de gens qui, entre autres, apprennent à se penser en tant que communauté et que communauté minoritaire, mais voilà, comme les homosexuels par-ci, comme c'est aussi de l'époque de la lutte des prostituées, de la lutte de plein de gens qui jusque-là étaient plutôt qui sont traditionnellement méprisés. Et bon, les sourds en font partie. Et cette langue des signes réexiste un peu plus. Et puis, au moment du grand triomphe de la gauche en France, en 1981, le socialisme arrive au pouvoir et, dans les deux premières années, a le temps de faire quelques petites bonnes choses avant de ressombrer dans l'ultralibéralisme. Et donc, entre autres, en 1981, la langue des signes est à nouveau autorisée dans les écoles. Enfin, disons qu'on crée des classes où on apprend aux enfants la langue des signes et on leur fait les enseignements en langue des signes. ce que les sourds appellent des écoles bilingues. Et il faut bien comprendre que quand on parle de bilingue, c'est pas langue des signes et français oral, c'est langue des signes et français écrit. Donc les sourds apprennent à lire et à écrire, mais ils apprennent pas à parler. On les fait pas chier avec ça. Et ils se retrouvent pas dans cette situation à avoir quelqu'un en face d'eux qui essaye de comprendre plus ou moins ce qu'ils baragouinent. Ils se retrouvent à avoir une langue, quand ils doivent parler, bah ils parlent avec les mains. Et voilà. Et c'est une autre langue. Et si les gens veulent parler avec eux, bah il faut apprendre la langue des signes et c'est tout. Ou alors parler à l'écrit, ça marche aussi. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on croit que ça va mieux, et c'est vrai, mais ça reste quand même un tout petit peu vrai, puisque aujourd'hui, dans toute la France, il y a 10 endroits où il y a des écoles pour les sourds, 10 villes où il y a des écoles pour les sourds, dont 4 qui vont jusqu'au bac, les 6 autres, on peut aller à l'école primaire, mais après, c'est mort.
Wow.
Ouais. Alors Lyon, bonne nouvelle pour si vous êtes sourd, vous m'entendez pas. si vous venez d'accoucher d'un enfant sourd, bonne nouvelle pour vous. À Lyon, il pourra aller jusqu'au bac. Mais effectivement, c'est pas du tout partout et il y a quand même des coins où si vous habitez en Alsace, il va falloir soit laisser vos enfants dans de sales conditions, soit déménager sacrément loin par exemple. Alors quand on dit de sales conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les fout à l'école avec les autres gamins. Alors là, bien sûr, ils n'entendent pas, ils sont au fond de la classe. Ou alors, ils ont une sorte d'appareil, et là, ils entendent. Et là, vous pouvez chercher sur Internet des témoignages de sourds qui racontent la première fois qu'ils ont mis un appareil. Ça a l'air d'être vraiment extrêmement pénible comme moment. Et,
c'est
et en fait,
appareils ça... qui viennent au niveau du crâne, là.
Je pense que c'est un truc qui se met quand même, c'est un appareil dans l'oreille, mais je suis pas entièrement sûr. Mais c'est un truc en réalité qui fait pas du tout, qui permet pas du tout d'entendre comme vous m'entendez en ce moment. Alors c'est très difficile parce que bien sûr personne n'a les deux expériences. Enfin, c'est, du moins si, mais les gens qui ont les deux expériences, c'est des gens qui sont devenus sourds et du coup c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est très difficile d'imaginer la manière dont ils peuvent percevoir les sons avec ces appareils. Ce qui est clair, c'est que les témoignages sont à peu près unanimes sur le fait que c'est extrêmement pénible. Alors voilà, ça c'était sur la langue des signes. Et donc aujourd'hui, une dizaine d'associations de défense des sourds, dont les Sourds en Colère, qui est une association un peu historique, défilent à Paris pour réclamer une meilleure accessibilité à des administrations et des services publics, parce que c'est ça qui est visé derrière cette histoire d'inscrire la LSF dans la Constitution. La personne dont j'ai trouvé un petit bout de quelques, en tout cas comme une sorte de petit bout d'interview dans Libé, nous explique que pour la télé par exemple, c'est un peu problématique. Et par exemple en ce moment, grand débat national, blablabla. Bon, si vous êtes sourd, c'est mort, vous aurez rien de ça, dans les journaux à la télé. Puisque sur plus de 39 heures d'émission sur les chaînes, sur la totalité des chaînes françaises par mois, sur 39 000 heures d'émission, il y en a 25 qui sont doublées en langue des signes. 25 sur 39 000, hein, c'est vraiment que dalle.
Et quoi, il y a un JT sur France 3, je crois, qui est... en tout cas de mémoire quand j'étais ado.
Tout à fait. Les grands débats retransmis à la télé, dans le cadre du grand débat, n'étaient pas accessibles en langue des signes. Nous avons également eu la déception, nous dit Lionel Cloître, le président de l'association des Sourds en Colère, nous avons également eu la déception de constater qu'ils ne sont pas non plus sous-titrés. En fait, tout le monde s'en fout des sourds. Donc les sourds demandent aussi d'avoir plus de classes pour mettre les enfants sourds. Et puis voilà, si la langue des signes était inscrite dans la Constitution, les administrations seraient tenues d'assurer tous leurs services dans cette langue. Alors ça ne veut pas dire que tous les agents de l'État devraient apprendre la langue des signes, mais ça veut dire que quelqu'un qui aurait besoin d'aller dans n'importe quelle administration pourrait trouver quelque part un interprète de cette administration qui viendrait lui expliquer les choses. Alors c'est pas du tout le cas. Et donc ce gars des Sourds en Colère nous explique par exemple qu'un conducteur ou une victime d'accident se retrouve face aux gendarmes et aux policiers. Si, à moins que par miracle un des flics ne connaisse la LSF, il n'y a juste pas d'échange possible, c'est juste mort. Une personne qui se déplace aux urgences médicales, pareil. S'il n'y a pas d'interprète, en fait vous êtes dans la merde, vous ne pouvez jamais rien expliquer, quoi. Parce que tout ça demande d'être organisé en amont, avant que la personne sourde se pointe et que là les médecins fassent « Oh merde, si on avait un interprète !» Une maman sourde qui a un souci avec l'école de son enfant, c'est mort. Ça, c'est les exemples qu'ils donnent dans l'IB, mais voilà. Et bien sûr, à cause de cette émission Mayday qui a fini un petit peu trop tôt, j'ai pas eu le temps de faire une conclusion à cette histoire de langue des signes.
Mais c'est fini, quoi.
Mais c'est fini.
En tout cas, on peut quand même dire que c'est un peu une langue de résistance, quoi.
Ah, c'est carrément une langue qui a une sacrée histoire de résistance. Et c'est vraiment une langue, mais tellement complètement fascinante, quoi.
Et ben voilà. On était deux, mais on a quand même fini nos petits trois quarts d'heure.
Oui. Il est maintenant 19h46 et on va vous laisser avec 14 minutes de musique des bandes continues de Radio Canu.
C'est ça. Et après, vous allez pouvoir écouter Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. En tout cas, merci de nous avoir écoutés.
Et à la semaine prochaine.
Ciao.
Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.